Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue, Boris Chassagne avec vous pour la prochaine demi-heure. Au sommaire, après avoir pris la mer la semaine dernière, on pose les pieds à terre sur l'île d'Anticosti, rencontrer la directrice de la radio locale.
On n'est pas beaucoup, fait que c'est sûr qu'il faut crier fort des fois pour se faire entendre, puis c'est ce qui s'est passé à l'époque.
En Ontario, le journal Le Goût de vivre garde le cap depuis maintenant un demi-siècle.
C'est phénoménal. C'est parce qu'ils se voient dedans, ils se reconnaissent, ça fait partie de leur vie, de leurs expériences. Il faut juste être nous autres mêmes, puis continuer ce qu'on fait parce qu'ils sont attachés à leur journal comme nos âmes.
Une famille de musiciens acadiens se transmettent leur passion pour la musique depuis 6 générations. Ce sont les Leblanc et ils sont 5.
Une chose qui plaît beaucoup au public français, c'est quand on chante. Puis beaucoup des chansons viennent justement de la France, puis ont été traversées comme en bateau, comme longtemps passé.
Les publics en France, je trouve que c'est nos meilleurs publics. Ils sont impressionnés par nos accents.
Notre écran radar fait feu de tout bois. Des chercheurs veulent atténuer les bruits sous-marins dans le fleuve Saint-Laurent. 35 femmes de l'Acadie se racontent dans Acadienne, la cuisine du monde à la cafétéria scolaire. Et l'hiver est sans pitié pour les sans-abri.
Écoutez, ça le fait depuis des années et des années. Là. On a 101 lits qui sont à pleine capacité à tous les soirs.
Bienvenue à Point de vue, l'info locale partout au pays.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Merci d'être avec nous. Les médias canadiens traversent des moments difficiles. Journaux, radio, télé, chaînes spécialisées, tous disent souffrir d'une importante baisse de revenus. Les revenus publicitaires que leur grugent les géants du numérique notamment. Heureusement, plusieurs tiennent encore le fort. C'est le cas à Radio Anticosti, sur l'île qui porte le même nom, plantée au beau milieu du fleuve Saint-Laurent et qui vient de souffler ses 35 bougies et peut-être grâce à son isolement. Une radio qui est née de la mobilisation de ses résidents, eux qui souhaitaient se faire entendre, avoir leur propre radio. Ses lettres d'appel sont CJBE-FM, la radio qui lançait ses premières émissions en 1988. Notre journaliste Raphaël Hensley-Vincent a pris le bateau pour aller à la rencontre d'Isabelle Plante, la directrice générale de cette station basée à Port-Meunier. Madame Plante, qui est à la barre de cette radio communautaire insulaire depuis 4 ans. Elle nous raconte d'abord les débuts de la station, puis les projets qu'elle caresse.
Le début de la radio, quand ça a été créé, c'était un groupe de citoyens. Ça a vraiment été une demande citoyenne à l'époque d'avoir une radio parce qu'on s'entend qu'ici, on ne capte pas, à part Radio-Canada, là, qui est sur le AM, on ne capte pas vraiment beaucoup de radios. Puis ce que j'ai su, c'est qu'il y a eu beaucoup de rassemblements de plusieurs, je pourrais dire quasiment partisans, où est-ce qu'eux faisaient des pancartes pour aller mobiliser des espaces, exemple, à l'aéroport pour se faire entendre, pour avoir des subventions, pour avoir le droit de pouvoir construire une antenne, une tour, une antenne radio. Mais ça a vraiment été là, le fait de se faire entendre, parce que les petites régions, c'est un peu ça aussi qui arrive, c'est qu'on n'est pas beaucoup. Fait que c'est sûr qu'il faut crier fort des fois pour se faire entendre, puis c'est ce qui s'est passé à l'époque.
Cette Lavalloise d'origine a eu un coup de cœur pour Anticosti qui l'a poussée à s'y installer en 2016. Elle occupe le poste de directrice de la radio locale depuis 2019. Récemment, Isabelle Plante a redécouvert les vieilles bandes audio de ses premières émissions et elle souhaite les numériser. Elle imagine aussi un projet de balado pour conserver les traces des débuts de la radio.
Les principaux acteurs, il y en a qui sont encore ici, sur l'île. Puis je me dis toujours, ben écoute, on n'est pas éternel. Puis pendant que j'ai encore accès à cette mine d'informations-là et d'expériences, surtout, je vais les emmener à enregistrer puis à faire des entrevues pour aller aussi recréer tout ça, le début de la radio, comment ça s'est passé, comment ça se filait, ça se faisait-tu dans le salon de ma tante ou bien ça se faisait vraiment dans un local précis. Tu sais, j'aimerais aller voir c'est quoi tout ça, puis aller plonger là-dedans puis laisser aussi une trace parce qu'après, ces gens-là, dans 10, 15, 20 ans, ben, ils ne seront plus de ce monde. Donc, je trouve ça intéressant de laisser la trace du début de la radio.
Malgré ses implications citoyennes des débuts, la directrice convient que le recrutement est actuellement un réel défi pour Radio Anticosti. Si le fonctionnement de la radio a longtemps été assuré par des locaux, elle n'a pas réussi à pourvoir le poste d'animation laissé vacant depuis août 2022. Pourtant, ce n'est pas faute de candidatures intéressantes ou de jeunes motivés à prendre la relève, déplore Isabelle Plante. Le manque aigu de logements à Port-Meunier l'empêche d'engager une personne provenant de l'extérieur de l'île, puisque l'organisme communautaire ne possède pas d'immobilisation pour la loger.
Ici, si on n'habite pas déjà sur place, présentement, il n'y a plus de possibilité de venir se loger présentement. C'est sûr qu'il y a toujours les gîtes. Donc, tout ce qui est finalement à long terme, il n'y a pas de bail ici à long terme, il n'y a pas de logement en tant que tel. C'est des maisons, des semi-détachés. Faut vraiment qu'il y ait de la construction pour se permettre d'avoir un logement. Nous, la radio ne possède pas d'immobilisation à ce niveau-là. Habituellement, les pourvoiries, ça soit aussi la CEPAC, la municipalité, la coopérative qui est notre épicerie, possèdent des logements, possèdent des maisons, plutôt, qui sont transformées en logements pour les employés. Nous, la radio n'a pas eu besoin de faire ça parce que depuis des années, on fonctionnait, je dirais, à l'interne, donc avec des gens du village. Fait que je te dirais, c'est un beau petit défi. On avait trouvé une personne vraiment là, parfaite en tout genre qui voulait venir ici depuis au moins 5 ans, diplômée, fraîchement d'animateur radio, un beau jeune là, qui voulait venir ici pendant des années, puis on n'a pas pu à cause qu'il n'y avait pas de logement.
Sans animateur sur place, CJBE doit se résoudre à engager à l'externe des animateurs et animatrices d'autres radios communautaires qui produisent à distance des émissions et du contenu local afin d'atteindre son temps d'antenne dédié au contenu local exigé par le CRTC, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. D'ici à ce qu'une personne soit engagée, Isabelle plante sa part à la restructuration de la radio et à la révision des états financiers et des conditions de travail. Une des réflexions qui l'habite également profondément concerne l'implication des gens du village à la radio, afin d'en faire un lieu de rencontre et d'échange.
Parce que moi, mon but, c'est que je veux rouvrir la radio d'une façon encore plus communautaire, parce que là, on est un petit peu comme dans le bout d'un corridor, puis il n'y a jamais personne qui vient en réalité, puis je trouve pas ça normal. Donc, comment être capable d'aller rechercher l'implication citoyenne pour pas rendre ça, mon Dieu, à radio, c'est stressant, c'est énervant, non, tu sais. Venez me parler de votre recette de sauce à spaghetti, venez parler de votre ménage de printemps dans vos trucs avec le bicarbonate de soude, tu sais, je dis des exemples, mais j'aimerais ça être capable d'aller rechercher un petit côté comme ça, plus vivant de la radio.
C'était un reportage de Raphaël Hensley-Vincent.
Bonjour, ici Julie Lesalliers au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue.
Eh bien, il y a des médias qui résistent encore aux assauts des siècles. C'est le cas du journal local Le Goût de vivre et dont les lecteurs tournent les pages depuis près de 50 ans. Issu d'un projet d'économie sociale, ce bimensuel francophone de La Fontaine en Ontario vient d'être récompensé par le réseau Point de presse, un organisme national qui chapeaute les journaux francophones en milieu minoritaire au Canada. C'est en fait l'ancien APF, l'Association de la presse francophone. Le goût de vivre qui a au fil des décennies et comme tant d'autres traversé une période très difficile, ce journal qui a pendant 6 ans survécu sans un seul salarié en poste, voici donc une partie de l'entretien réalisé par Hubert Théberge à Penetanguishene en Ontario avec Odette Bussière, présidente du conseil d'administration du journal Le goût de vivre, qui relate les premières heures du journal. Tout a commencé sur un banc d'école.
Bien, ça s'est fait dans une classe de français, à l'époque à l'école secondaire PSS, qui était supposément bilingue.
Oui.
Donc, parce qu'il n'y avait pas d'école française à l'époque. Alors, les élèves de la classe de français de Sœur Priscilla Maurice, donc, ont manifesté le désir de partir un journal. Et je peux te dire que j'en ai vu souvent dans les écoles, là, des élèves qui disaient « OK, on part un journal. »
C'est rare.
Et ça durait 2 semestres, à peu près. Mais ce qui a été important dans leur décision, c'est que du moment qu'ils l'ont fait, ils ont inclus la communauté. Donc, ils faisaient leur journal, mais ils distribuaient à la communauté francophone. Alors, c'est devenu, à ce moment-là, un lien direct parce que de penser qu'après 51 ans, un journal qui a commencé dans une classe de français, dans une école bilingue, c'est phénoménal. Comme...
En 2023, après 51 ans, qu'est-ce que le journal cherche à accomplir dans sa communauté? C'est quoi le but principal, ce qui vous motive?
Ben, en fait, je pense que ce qui est important, c'est qu'on reste... on reste vraiment... ancré dans le but premier, qui est de parler des gens de la région, mm-hmm. De parler des bonnes nouvelles, des bons coups, qu'on soit réellement le reflet de la communauté franco-ontarienne du milieu. Et ça, je veux dire, tu rencontres des gens, là, ils te voient avec une pile de journaux, là, tu t'en vas livrer ça, puis une fois une madame, elle me dit, hey, « moi, là, ils ont déjà publié, quand j'étais jeune, ils ont publié mon poème, puis là, on parle d'il y a 30 ans, mais je l'ai encore, je l'ai découpé, puis je l'ai gardé. » Alors, c'est ce qui fait que le journal est si important pour les gens, c'est parce qu'ils se voient dedans, ils se reconnaissent, ça fait partie de leur vie, de leurs expériences. Donc, je pense que faut pas aller chercher de midi à 14h là, des changements à faire. Faut juste être nous autres-mêmes puis continuer ce qu'on fait parce que c'est ça que les gens ils sont attachés à leur journal comme nos arbres.
Le goût de vivre qui, sans jeu de mots, a survécu à la pandémie, à la crise qui touche tous les médias, ceci alors que les journaux abandonnent le papier, que des milliers d'emplois sont perdus et que d'autres ferment boutique, Hubert a demandé à Mme Bussière ce qu'on pouvait souhaiter au journal « Le goût de vivre » pour 2024. De la publicité et des subventions, dit-elle.
Bonjour, ici Maxime Gauthier à Saint-Quentin. Vous écoutez Point de vue.
Du golfe du Saint-Laurent en passant par la région de la baie géorgienne, on rejoint maintenant les Maritimes rencontrer des musiciens et musiciennes de la famille Leblanc, d'autant qu'on soulignait du 7 au 12 novembre dernier la 27e Franco-Fête à Dieppe en Acadie, le prétexte idéal donc pour une rencontre avec les Leblanc, pour qui la musique est une affaire de famille depuis six générations, la famille Leblanc composée des parents Rebecca et Robin Leblanc et de leurs trois filles Charlotte, Rosalie et Mélodie. Adèle Gros-Perrin, postée à Halifax en Nouvelle-Écosse, les a rencontrés au retour d'une récente tournée en France.
Comment ça se transmet le goût de la musique?
Mais depuis six générations, je pense que c'est la première fois qu'il y a deux enseignants dans la maison. Mes grands-parents n'étaient pas des enseignants, mon arrière-grand-père non plus. Puis moi, de transmettre à mes enfants ou à d'autres, ça me fait plaisir. Moi, j'ai déjà mon plan de petite école de musique là, qui s'en vient. Parce que je veux continuer à transmettre. Puis notre camp de violon qu'on faisait, on a fait quatre ans de camp. On appelait ça le camp acadien. On avait des gens du Québec, des États-Unis qui venaient camper sur notre ferme. Puis on avait des petits ateliers. On profitait des musiciens qui étaient de passage. Ça aurait pu être de l'Irlande, des États-Unis, pour venir enseigner en deux concerts. Ça fait que ça, c'était une formule qu'on a mis de côté parce qu'on devait tourner. On n'était plus là au mois d'août, puis il y a des chances qu'on ne soit pas là encore jusqu'à ce qu'on décide de recommencer parce que les enfants auront chacun pris leur envolée.
C'est vrai que les filles, peut-être une fois qu'elles auront grandi, est-ce que vous pourrez continuer en faisant les études à l'université? Peut-être pas.
C'est sûr, ça va être compliqué, mais si c'est si ça veut être un projet carrière futur, on ne sait jamais.
Et en même temps, on arrive à pratiquer un peu ce qu'on appelle à distance, là, parce qu'il faut le dire, cette année, Charlotte, elle a été invitée à l'Académie de soccer Nouveau-Brunswick. Donc, elle est ici, à Dieppe, elle va à l'école Mathieu-Martin, puis nous, on poursuit à Bathurst. Alors, on se rencontre sur Teams deux fois par semaine pour faire les pratiques.
Okay.
Donc, un départ de la maison, ça ne veut pas dire la fin du groupe ou de la musique non plus.
Alors, justement aussi, c'est comment de travailler en famille? Est-ce que des fois, il y a des tensions? Est-ce que... Voilà, quoi. Comment ça se passe?
Définitivement.
C'est inévitable, ouais.
C'est pas parce qu'on joue de la musique qu'on n'est pas une famille normale. Puis, comme enseignant, t'aimerais pouvoir enseigner et pas faire tant de gestion. Nous, on veut s'amuser à faire de la musique. Puis oui, il y a une forme de gestion, mais je pense que comme pédagogue, on s'est dit le soir, ça marchait pas très bien au début. On était fatigués. C'est pour ça que le matin, on se lève. Moi, je ferais mon café. Je suis de bonne humeur. Les enfants arrivent. On fait une demi-heure. Il faut que ça se termine parce qu'il faut que j'aille travailler. Tandis que le soir, ça peut s'éterniser. Puis au départ, on a vécu des soirées comme ça, tu sais. Parce que non, on pratique pas assez bien. On ajoute une heure de plus. Puis là, ça va pas si bien. Mm. Ça fait que, on a réglé des petites choses avec le temps. On a trouvé une formule qui fonctionne.
Wow, c'est beaucoup d'engagement. Et vous avez commencé à quel âge, les filles?
Ben, depuis qu'on est jeune, on fait de la claquette. Je pense qu'on a commencé à avoir la claquette. Mélodie avait 3 ans. Moi, j'en avais 6. Puis Rosalie, à côté de moi, en avait 5. Fait que ça fait longtemps.
Alors, on va un petit peu parler aussi de votre album « Perdrai-je mon temps ». Est-ce que vous pouvez le présenter, expliquer qu'est-ce qu'il représente, comment vous l'avez fait?
Ben, c'est ça. C'est notre deuxième album de famille. On choisit tout le temps une phrase d'une chanson ancienne, une chanson acadienne. le premier album, c'était « Trois jolies demoiselles », une chanson de « Pris d'en haut » de Memron Cook, qui était chantée par une amie de la famille, Antoinette Boudreau. Puis cette fois-ci, ben, on a puisé dans le livre des chansons « Chants d'Acadie » du père Anselme Chasson, chanson intitulée « Saunierville », qui est la chanson qu'on vient juste de mettre en vidéoclip, mais le titre, par contre, là, je me mélange un peu, le titre, lui, vient d'une autre chanson de la péninsule acadienne où on dit « Perdrai-je mon temps ?» Perdrai-je mon temps, c'est une chanson d'amour. Hein? Est-ce que je perds mes peines? Est-ce que je perds mes amours? Est-ce que je perds mon temps? Donc, on l'a utilisé, nous, dans le sens aussi de ce... un sens un peu comme culturel. Est-ce que faire de la musique traditionnelle, parce que moi, malgré que ma famille vient d'un milieu... un milieu traditionnel. Moi, j'étais batteur quand j'étais jeune. Je jouais juste du rock. Mm. C'est ça que j'aimais faire. Pour moi, aller en France un an étudier, ça a été une genre de déclic. Quand les gens m'ont dit, ben, tu viens de Paris, puis tu joues pas de violon. Puis ça m'a fait un peu comme, tu sais, je les avais déçus. Fait que je suis revenu. Puis c'est là que j'ai commencé à jouer du violon, puis me promener de village en village, aller à Chéticamp, puis enregistrer les gens, de voir mes filles faire de la musique traditionnelle. Je pense que la question se pose, est-ce qu'on perd notre temps à faire de la musique traditionnelle? Il y en avait beaucoup avant, mais qui joue de la musique traditionnelle aujourd'hui qui est de leur âge? Et donc, cette question-là, c'est un peu une question qu'on se pose ensemble, à se dire, est-ce que c'est vraiment un choix? Faut-tu faire uniquement un style? Ou est-ce qu'on peut faire une musique qu'on aime et ce qui fait partie d'une musique du monde, une musique? Puis les filles, je pense qu'un prochain album, ils aimeraient ça que ça soit plus engagé, avoir des drums. Puis moi, je suis batteur. C'était mon premier instrument. Ça ferait plaisir d'évoluer puis pas sentir qu'on perd notre temps.
D'accord. Mm-hmm. Rebecca?
C'est aussi la perspective des ados, là. Faut le dire, là. Est-ce qu'eux, eux-mêmes, sentent qu'ils perdent leur temps là, à jouer de la musique, peu importe le style et tout ça? Fait que moi, je trouvais qu'il y avait une belle connotation dans ce sens-là aussi.
On s'est aperçu que le public aime le chant. Ça fait qu'on en a mis 6 sur les 12. Mm-hmm. Puis les 12, c'est des pièces vraiment là, à saveur celtique. Acadienne.
Oh,
parce qu'il y a un style parisien. Ce n'est pas le style de l'Irlande ou de l'Écosse. C'est vraiment un style particulier de Paris.
Okay. Justement, je voulais vous demander, à ce qui paraît, vous avez fait pas mal de tours en France, justement. Comment ça s'est passé? Parce que justement, c'est très acadien, le style, c'est un peu particulier. Est-ce que ça plaît au public français?
Une chose qui plaît beaucoup au public français, c'est quand on chante. Puis beaucoup des chansons viennent justement de la France, puis ont été traversées comme en bateau, comme longtemps passé par... chez nous, fait que c'est une chose qui est beaucoup appréciée là-bas, oui.
Les publics en France, je trouve que c'est nos meilleurs publics. Ils sont impressionnés par nos accents. Les accents, quand on parle, c'est surtout... moi, mon défi, c'est quand je parle ou je présente, j'essaie de présenter, puis là, je parle vite, là, puis là, la foule me regarde comme, qu'est-ce que tu viens de dire? Ben, ouais. Ils n'ont rien compris, puis là, je me répète. Mais, ouais, je pense que c'est comme les accents, puis... C'est le fun. C'est des belles foules.
Mais quand ma fille dit « meilleur public », il ne faut pas oublier qu'on n'a pas encore joué pour du monde qui fête ici.
OK.
Puis je pense que quand ils auront la chance de faire ça, le meilleur public, là, ça va devenir pas mal
relatif. Oui, ce que tu veux dire, c'est que souvent, on est dans le créneau jeunesse, là, les heures comme avant le dodo. Là.
Merci à toute la famille Leblanc pour cette entrevue. C'était Adèle Porigiel, Halifax.
On reste dans la même province pour vous parler de l'écrivaine Stella D'Entremont, originaire de Pubnico-Ouest, en Nouvelle-Écosse. Madame D'Entremont, qui vient de lancer son tout nouveau livre, intitulé Acadienne. L'auteur nous présente 36 femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse, de l'île du Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick et de la Louisiane même. Acadienne plonge en fait dans le récit de vie de ces femmes, et par le fait même de leur région, en nous présentant d'abord les visages et les mains de chacune d'entre elles, Danielle Aucoin.
J'ai commencé ce projet ici en 2020. J'avais reçu une subvention du Conseil des arts Canada pour rencontrer 25 femmes de la région des Maritimes pour faire prendre leurs photos de leur visage et de leurs mains. Parce que moi, je disais que si tu regardes sur les visages et les mains d'une personne, tu peux raconter leurs histoires. Et en plus, j'allais prendre puis attacher un bio avec ces images. Puis ce projet ici a commencé, ça l'a vraiment bien. Je rencontrais des gens, des femmes de l'île de Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, puis Nouveau-Brunswick. Puis je m'apercevais que leurs histoires étaient très intéressantes. ça devenait un petit peu personnel parce que chacune racontait un petit morceau de la vie de ma mère, parce que moi, j'avais déjà perdu ma mère quand j'avais 34 ans. J'ai décidé que c'était important de mettre toute cette information ici, comme dans un livre, parce que je pense que c'était les informations intéressantes et importantes. Alors, j'ai demandé une deuxième subvention pour faire cette deuxième partie-là, de faire ce livre. Et en plus, ajouter 10 femmes de la Louisiane, parce que je voulais voir s'il y avait la similarité entre les deux. Puis le livre est finalement fini.
Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chéticamp en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Comment atténuer l'impact sonore qu'ont les navires sur les espèces marines du fleuve Saint-Laurent? Eh bien, des experts en acoustique et en innovation maritime du Centre de recherche appliquée affilié à l'Institut maritime du Québec à Rimouski travaillent à réduire l'empreinte acoustique des navires touristiques et marchands qui circulent sur le fleuve. Des expériences acoustiques ont été menées notamment dans la région de Tadoussac, sur la côte nord. Maxime Jaudoin aux Escoumins en parle avec Jean-Christophe Gauthier-Marquis, chef d'équipe responsable de l'acoustique et des vibrations d'innovation maritime.
Dans les dernières, je dirais, deux décennies, il y a eu une sensibilisation importante là, face à cette problématique du bruit sous-marin. En fait, la communauté scientifique a démontré qu'il y avait beaucoup d'effets néfastes sur les différentes espèces, notamment des espèces en péril, comme la baleine bleue, par exemple, ou le beluga. Et à partir de là, ben la question se pose, c'est comment on fait pour réduire l'empreinte sonore des navires, puis quelles solutions on peut adopter concrètement. Qu'est-ce qu'on fait? On met, littéralement, c'est des microphones sous-marins, ce qu'on appelle des hydrophones, et on écoute le bruit réel des navires. C'est quoi vraiment, là, dans le Saint-Laurent en ce moment, dans le coin de Tadoussac, dans le coin en face de Rimouski, qu'est-ce qu'il y a comme bruit? Puis en personne, on regarde, bon, ben, c'est quoi l'état de la situation, puis qu'est-ce qui est le plus nuisible pour les espèces? À partir de là, on a identifié deux sources principales de bruit, c'est-à-dire la machinerie à bord, les moteurs, les génératrices, les pompes, là, tout. Si vous avez déjà été dans une salle des machines, vous vous rappelez sûrement là, que c'était extrêmement bruyant. Mais la source principale, c'est l'hélice. L'hélice en arrière, elle fait beaucoup de bruit. Si un navire réduit sa vitesse considérablement, ça diminue le bruit. Mais on s'entend que ça a des impacts économiques importants et c'est difficile sur un armateur qui, lui, doit offrir un certain service.
Parmi les solutions envisagées, l'Institut travaille aussi à développer des résonateurs capables d'absorber certains des sons sous-marins émis par les moteurs et les hélices des navires. Une peinture aussi peut être appliquée sur la coque. On est aussi en train de cartographier la pollution sonore le long du fleuve Saint-Laurent grâce au déploiement d'une dizaine de stations d'écoute. Près de 7000 navires transitent chaque année sur le fleuve Saint-Laurent. À suivre! Le monde a bien des visages, mais aussi ses goûts et ses couleurs, et c'est bien l'expérience dont profitent depuis peu les élèves et les professeurs du centre scolaire Samuel de Champlain à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick. Eux qui, établis à la cafétéria du centre scolaire, peuvent s'ouvrir à la cuisine du monde. Le restaurateur Alex Aram a été embauché pour mener à bien cette mission culinaire, si la cafétéria s'est gardée quand même de retirer les hamburgers, lasagnes et pizzas de son menu. Elle va quand même proposer des salades grecques, shawarma et saucisses soudjou. Alex Aram, un restaurateur bien connu des habitants de Saint-Jean, puisqu'il est propriétaire d'un restaurant de cuisine libanaise, est à la barre donc de cette transformation. Il est ici au micro de Sébastien Caron.
C'est vraiment depuis que j'étais en secondaire à Montréal, toujours je regarde le cafétéria et je voulais que ça soit différent. T'sais, c'est quelque chose que j'ai des idées, des nouvelles idées pour le faire, c'est ça. Les options, il y a beaucoup. T'sais, et c'est vraiment multiculturel. Là. Quand on parle de... C'est pas vraiment cuisine libanaise comme la Thomas. C'est, par exemple, aujourd'hui, on avait grec. Okay? On avait la salade grecque avec l'espanakopita, au riz, avec la sauce au yogourt. Comme les assiettes à chaque jour, c'est vraiment de la viande qui... Il n'y a rien de congélé et beaucoup d'options.
Est-ce que le fait d'avoir une population qui soit très diverse dans le centre scolaire, on sait qu'il y a des gens qui viennent de partout dans le monde pour le coup. Est-ce que c'était plutôt facilitateur pour toi?
Absolument, absolument, parce qu'il y a déjà des gens qui le savent, qui savent c'est quoi. Et si quelqu'un qui le sait, il va le dire à ses amis, au professeur, à tout le monde, il va l'expliquer et ça nous sauve de temps de l'expliquer à tout le monde, tu sais. Et en plus, on va garder des assiettes traditionnelles comme les hamburgers, ça va être quelque chose qu'on va avoir. Les pizzas sont là à chaque jour, lasagne, spaghetti. Et à part de ça, l'assiette du jour. L'assiette du jour, ça va être une surprise, tu sais. Demain, ça va être shawarma avec du riz et légumes et la sauce.
OK.
Ouais. Parce qu'on est en train d'essayer de faire de plus en plus, comme on a fait le butter chicken indien. Puis cette semaine ou la semaine prochaine, je veux faire quelque chose chinois, comme des teriyaki avec du riz blanc et la sauce teriyaki au poulet et légumes. Okay. C'est ça. Donc, ça va être vraiment beaucoup de diversité.
Le repas moyen chez toi, donc à la CAF, là, il coûte combien?
7$. Bien sûr, entre secondaire et primaire, les prix, ça varie. Petit peu comme au primaire, les portions sont un peu plus petites.
Bien sûr.
Mais ça vient avec un breuvage et avec un dessert.
C'est quoi les premiers retours?
C'est excellent. On est vraiment content de ce qu'on entend, des professeurs, des élèves qui reviennent. Les élèves sont vraiment contents. Tout le monde, jusqu'à date. Merci.
Une entrevue réalisée dans le cadre du programme Initiative Journalisme Local.
Et pour conclure, on a une pensée pour ceux et celles sans domicile fixe et qui doivent maintenant affronter les rigueurs de la saison froide. Pendant que l'on travaille à Fredericton, par exemple, à bien vêtir certains des plus démunis de notre société, d'autres à Québecville, à 2h30 de Montréal, se démènent pour leur trouver un lit, si ce n'est que pour passer la nuit. C'est le cas au refuge L'Aube-Rivière de Québec, qui sait malheureusement d'ores et déjà qu'il ne sera pas en mesure de loger tous les sans-abri qui vont frapper à sa porte dans les jours et les mois qui viennent. Notre nouveau collaborateur Jimmy Lajoie-Boucher en parle avec le coordonnateur clinique Frédéric Lapointe.
La réalité fait qu'il y a du monde qui sont à la rue, qui sont dehors. Dans les dernières années, on avait ouvert un petit café de nuit. Par contre, on n'est plus capable de l'ouvrir. L'année dernière, ça s'est fait en collaboration avec le CIUS, YMCA. Écoutez, ça le fait depuis des années et des années. Là. On a 101 lits qui sont à pleine capacité à tous les soirs. On a un service de 15 lits de dépannage qui est vraiment ouvert 24 heures sur 24, où ce que les gens peuvent venir, ça s'appelle la halte. Dans le fond, c'est un moment de répit. Les gens viennent dormir en 8 heures. Malheureusement, on doit les réveiller parce que quelqu'un d'autre qui a un lit, c'est occupé à 300%. Puis une très, très, très grosse hausse depuis la pandémie. Beaucoup de monde des différentes régions. Je l'entendais encore aujourd'hui, des gens une personne qui venait de Chicoutimi. Et qui s'est emmené à Québec, faute de place à Chicoutimi, arrive à Québec et il n'y a pas de place. Il y a beaucoup, beaucoup de monde comme ça qui viennent. Puis on sait qu'avec la situation qui se passe au niveau du prix élevé des logements, là, on voit vraiment une différence. Cet été, après, au niveau de l'hébergement homme, il y avait près de plus de 75% des gens qu'on n'avait jamais vus à l'Aube-Rivière, qui n'avaient jamais obtenu de service, qui se sont ramassés à la rue, faute de pouvoir payer leur logement.
Voilà, c'est tout pour nous. On vous rappelle que tous ces bouts d'histoire peuvent être entendus dans leur entièreté sur canada-info.ca. Ceux-là et des dizaines d'autres produits par nos journalistes d'Est en Ouest au pays. On remercie ceux d'aujourd'hui, Adèle Gros-Perrin, Sébastien Caron, Raphaël Hensley-Vincent, Hubert Théberge, Daniel Aucoin, Maxime Jaudoin et notre nouvelle recrue Jimmy Lajoie-Boucher. Bienvenue parmi nous. Coordonnateur national Stéphane Bénard, Boris Chassagne, au micro et à la réalisation. Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire. Merci de nous tenir compagnie. Si on fait de la radio, c'est bien pour être avec vous et parler de vous. Restez à l'écoute de ceux et celles qui nous suivent. À la semaine prochaine. Ciao!
Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.